Choisir, c'est le titre du message. Choisir, ou qu'est-ce qui oriente mes choix? Comment mes choix dans la vie s'orientent? On va pas, c'est pas un message qu'on va faire de manière exhaustive. Je suis bien conscient qu'il y a des milliers et des milliers de choses à dire sur cette thématique qui, d'une certaine manière, traverse la parole de Dieu de part en part. Mais j'aimerais qu'on regarde un petit peu ce matin comment on fait nos choix, qu'est-ce qui les oriente. On regardera la vie de deux hommes dans l'Ancien Testament, qui ont été deux hommes, deux types d'hommes, un type charnel, un type spirituel, qui ont marché et qui ont fait des choix en fonction de la chair ou en fonction de l'esprit. Deux hommes qui ont été quelque part au départ mis au même niveau, choisis par Dieu, remplis d'esprit, et nous verrons comment malgré cela ils ont eu non pas des destins. Je suis très prudent avec ce mot. Je trouve que en français courant, en tout cas, il veut plus dire grand chose, puisque il signifie une sorte de fatalité. Des bonnes étoiles alignées dans tous les sens. Mais donc, je parlerai plutôt de la responsabilité avec laquelle nous laissons la grâce agir dans nos vies et de quelle manière, quand nous faisons des choix en fonction de cette grâce, comment elle devient une puissance qui libère la vie dans nos cœurs et autour de nous. Nous verrons quelles sont les attitudes de l'homme qui fait des choix selon Dieu. Nous verrons quels sont rapidement les pièges de nos pensées. Et nous finirons là. Le premier point, qu'est-ce qui oriente mes choix? J'ai essayé de faire une petite liste de ce qui me semble orienter les choix de ma vie au quotidien. Je crois qu'un des premiers points qui oriente nos choix est le regard des autres. Et là, vous dites, non, ça c'est pour les gens faibles. Faux. Faux et archi faux. C'est pour tout le monde. En fait, nos choix sont très souvent orientés par le regard des autres. Le regard de la société, le regard de la réussite dans la société, le regard de ce qu'on attend de nous dans la société. Et ce n'est pas toujours négatif. Quand on attend de moi un acte héroïque, ça va m'encourager à faire un choix héroïque. J'ai vu plusieurs témoignages dans ce sens d'hommes dans le cadre de combats de guerre qui étaient des chefs de petites troupes et qui, je regardais un reportage dernièrement sur l'Algérie dans les années 50, dans ce massacre absolu, cette histoire que personne ne raconte. En tout cas, j'en ai absolument aucun souvenir dans ma scolarité. Il ne me semble pas avoir parlé de l'Algérie, Marie, non. Hein. Voilà, pourtant c'est notre histoire, mais bon, on a raconté plein d'autres trucs bêtes, mais pas ça. Et il y avait notamment dans cette histoire les témoignages d'hommes qui disent être entrés justement dans des actes héroïques et vraiment des héros. Pourquoi? Ben parce que justement, ils avaient l'attention de 5, 6, 10 gars qui dépendaient d'eux, le regard des autres, et que quelque part, ça leur a donné la foi, je mets plein de guillemets au mot foi, entendons-nous bien, pour rentrer dans quelque chose que naturellement, ils n'auraient jamais fait. Mais voilà, le regard des autres est un vecteur. Alors ça, là, je viens de le donner en version positive. Maintenant, il faut quand même être réaliste. Bien souvent, c'est plutôt dans l'autre sens. Je siège en conseil de discipline au campus de Coulommiers et je dois avouer que 90% des derniers conseils de discipline, donc on en a eu déjà une trentaine sur ces deux derniers mois. En même temps, si on proratise sur 2500 élèves, c'est pas tant que ça. Hein? Mais la plupart des erreurs dans lesquelles se retrouvent ces élèves, c'est bien souvent lié au regard des autres et à l'influence des autres, à ce qu'on attend d'eux ou ce qu'on n'attend pas d'eux, et où ils se retrouvent dans des situations qui après, malheureusement, deviennent ingérables et sont bien tristes. Nos choix sont donc orientés par le regard des autres, sur ce qu'on attend de moi. Nos choix peuvent être orientés aussi sur ce que je vais appeler une mauvaise culpabilité. Une mauvaise culpabilité, c'est « oh, je me sens repris par rapport à ça, donc je vais orienter un choix par rapport à ça ». Mais c'est pas, ça n'a pas forcément, d'ailleurs, c'est rarement en lien avec la repentance. C'est plutôt en lien d'ailleurs avec ce qu'on vient de dire juste avant, avec le regard des autres ou de la société ou de ce qu'on attendait de moi. C'est une culpabilité, plutôt regret, alors on va agir comme ça. Un des exemples assez flagrants qu'on a, c'est que par exemple dans notre joli pays de France, au mois de décembre, on a toute une foule de business, j'appelle ça des business, qui réclament de l'argent à Pierre, Paul et Jacques. Bah oui, parce que c'est la fin de l'année fiscale. On sait que les gens commencent à réfléchir à comment payer moins d'impôts. Et bon, faut être honnête. Il y a une espèce de culpabilité des fois à donner pour le SIDAction, pour le Téléthon, tout ça, qui en fait, s'il n'y avait pas ces aides de l'État de l'autre côté, hein, le jour où on enlève les déductions fiscales, je vous garantis que ça va tomber mal. Ces espèces de choses-là. Il y a d'autres choses qui orientent nos choix, notre égoïsme. Ça, c'est notre nature même. Ce qui nous intéresse, ce qui va nous rapporter quelque chose, c'est un des vecteurs favoris du cœur de l'homme. Et puis, un autre vecteur important, j'en parle ces derniers temps, c'est la peur. La peur oriente beaucoup de nos décisions. La peur de manquer, la peur de ne pas avoir, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas plaire, oriente beaucoup de nos choix, qu'on le veuille ou non. Et beaucoup d'entre nous faisons prendre dans ces choses-là. C'est 100% humain, c'est tout à fait humain, et on le retrouve pareil du tout début de la Genèse jusqu'à la fin, les hommes et les femmes, et même quand ils croient en Dieu, sont quelque part soumis à ce vecteur. Après, à nous, nous verrons comment ce matin, comment eh bien, ne pas vivre sous la soumission de ce vecteur-là, mais il existe, hein, de dire il n'y a pas de peur. C'est bon dans Astérix, mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Une autre chose qui oriente nos choix, ce sont nos raisonnements. Et là, on pourrait le ramener vers notre orgueil, notre égoïsme. On pense que nous, quand même, on y arrive bien. Donc, nos raisonnements sont un vecteur de nos choix, notre intelligence, nos capacités. J'ai la capacité de faire ça. Alors je le fais. Je l'avais déjà raconté il y a quelque temps, mais à un moment, j'avais changé de travail. Je gagnais du coup très bien ma vie. Et la première décision que j'ai prise, c'était de changer de voiture, en convainquant très rapidement mon épouse et les enfants. C'est pas très compliqué de convaincre les enfants sur le changement d'une voiture. Une femme un tout petit peu plus, mais bon, 2-3 arguments, ça passe. Et quand on a la capacité financière, rien ne bloque. Ça a été une perte sèche, 18 mois de galère, une panne sur l'autoroute. Et 4 mois sans voiture. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein. Mais nos capacités, l'appui sur nos capacités est un vecteur important de nos choix. Et puis enfin, et on le verra ce matin, ce qui devrait devenir un vecteur de nos choix, et ce qui le sera et qui va nous libérer de tous les autres, c'est la crainte de Dieu. Si j'ai la crainte de Dieu, tous les autres vecteurs, toutes les autres puissances d'influence, eh bien, vont très rapidement se retrouver à néant parce qu'à partir du moment où je crains Dieu, à partir du moment où c'est lui qui est l'autorité sur ma vie, eh bien, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus d'intérêt personnel. Il n'y a plus de mauvaise culpabilité. Il n'y a plus de raisonnement qui tienne. Il n'y a plus de mes capacités, il y a simplement ce que lui a dit. Et c'est tellement, tellement reposant de s'appuyer sur ce que Dieu nous dit. Bon, on a du mal à le comprendre. Oh si, on le comprend très vite ici le dimanche matin, mais en général, le dimanche midi sur le parking, on reprend nos anciennes habitudes. La chair ressuscite tellement rapidement qu'elle doit être amenée plusieurs fois par jour à la croix. J'aimerais qu'on regarde donc deux hommes qui, moi, m'interpellent beaucoup dans la parole de Dieu, qui sont deux hommes types qui font des choix. Un qui va les faire selon la chair, un qui va les faire selon l'esprit. Je parle bien sûr de Saül et de David. On ne va pas lire tous les textes qui les concernent. Vous les trouverez simplement dans 1 Samuel 10 à 20 à peu près, tous les exemples qu'on va citer ce matin. Mais vous avez tous des Bibles à la maison, donc ces textes-là, on ne les regardera pas en détail ce matin. Saül est un homme qui est choisi par Dieu. Il n'a pas fait d'acte héroïque avant d'être choisi par Dieu d'ailleurs. Saül, c'est la première chose qu'on peut remarquer sur Saül, c'est un peu là où on va le découvrir dans les premières fois, c'est que c'est quelqu'un qui naturellement en tout cas n'entretient pas le choix de la responsabilité. Je vais être un tout petit peu dur avec Saül, je vous préviens. Saül n'est pas le gardien des ânesses de son père. Le business de son père, je vais un petit peu vite, mais je dirais que c'est pas le premier de ses soucis. C'est pas son. Les ânesses s'égarent. Je me suis toujours posé la question pourquoi les ânesses du père de Saül avait pu s'égarer, alors qu'on n'a jamais d'exemple comme ça du côté de David. David, tout ce qu'on lui confie, ce que son papa lui confie, il en prend vraiment soin, il le garantit. Il le garantit véritablement. Il ne va pas raconter ses batailles, ses querelles avec les ours et les lions et tout ça, mais il va toujours ramener le bon nombre à papa. Saül, à ce niveau-là, naturellement, c'est quelqu'un d'un petit peu négligent. Les ânesses se perdent, elles se perdent. Bon, papa demande d'aller les chercher, il va donc y aller. Heureusement qu'il a un serviteur un peu plus investi que lui. Vous retrouverez ça dans 1 Samuel 10. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment quelqu'un qui est... c'est quelqu'un de négligent. Voilà un des traits de caractère de base de Saül avant qu'il soit choisi roi. On pourrait se demander pourquoi Dieu le choisit roi. Eh bien, vous lui demanderez. Dieu le choisit roi, non, je rigole. Dieu le choisit roi simplement parce que Dieu choisit dans un premier temps un roi qui correspond à ce que le peuple attend. D'accord ? Le peuple attend un gaillard qui fait 1m95. Qui dépasse tout le monde de la tête, qui, voilà, c'est le peuple attend du visuel. Dieu attend quelque chose du cœur. Mais puisque le peuple attend du visuel et vient de réclamer du visuel, on va lui donner du visuel. Voilà une des raisons que je suppose du choix de Dieu par rapport à Saül. Il ne prend donc pas d'initiative véritable, c'est son serviteur qui va les prendre quand ils vont aller voir Samuel, c'est le serviteur qui va... Enfin, on a vraiment l'impression que Saül est quelqu'un qui se laisse porter, c'est quelqu'un qui est négligent, voilà. Saül craint l'homme. Il est choisi par Dieu, mais il se cache. Et on se souvient que quand il a été choisi par Dieu, il a été choisi et Samuel lui a parlé véritablement. Mais quand après ils vont aller le chercher dans les et choisir parmi les différentes tribus qui sera le roi, et puis que ça tombe sur la famille de Kish et que Kish pas Q-U-I-C-H. Si jamais vous pouvez vérifier dans la Bible, ça n'a rien à voir avec la Lorraine. Kish, c'est le papa de Saül. D'accord ? Eh bien, tout le monde cherche. Et puis Saül, qui pourtant a eu des attestations juste avant que Dieu l'avait choisi, eh bien Saül, encore une fois, se cache. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est négligent et c'est quelqu'un qui a du mal à entendre ce que Dieu dit de lui, et c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus sensible à ce que les hommes disent de lui que ce que Dieu dit de lui. C'est un des traits de caractère de Saül. Est-ce qu'il a été touché par l'Esprit ? Oui, on va le retrouver à plusieurs fois dans cette succession de chapitres à partir du chapitre 10 de 1 Samuel. À plusieurs reprises, on va retrouver Saül qui vit des choses de l'Esprit. C'est-à-dire qu'un homme charnel peut vivre des moments où il est touché par le Saint-Esprit. Et là, c'est juste pour se dire, eh bien, effectivement, ce n'est pas le fait d'être dans... Pour ramener ça à notre temps aujourd'hui, le fait d'être dans une église dite charismatique, le fait de voir des miracles autour de nous, le fait de comprendre des textes de la parole de Dieu, n'empêche en rien le fait de prophétiser. Saül était parmi les prophètes à un moment. N'empêche en rien le fait de reprendre la direction de nos vies avec notre fonctionnement charnel. Et c'est ce qui va marquer d'une manière un peu plus précise la vie de Saül. Oui, il est touché par l'Esprit, c'est-à-dire que Dieu choisit un homme selon ce que le peuple attendait, mais Dieu donne exactement la même élection. Il ne piège pas Saül. D'accord ? Il vient le toucher, il met tout en œuvre pour que Saül puisse marcher correctement. Mais Saül, dans son cœur, ne se laisse pas vraiment conduire par Dieu. Quand il reçoit une consigne claire, on retrouve ça dans 1 Samuel 13, c'est un chapitre, 1 Samuel 13, 14, c'est un chapitre un peu particulier où on voit un décalage perpétuel, il y a sans arrêt un aller-retour entre ce que Dieu dit à Saül ou à Samuel pour Saül et puis la façon dont Saül le vit. C'est toujours en haut, en bas, en haut, en bas. Je le relisais encore ce matin, je me dis, mais... Et dire que... Non, parce que c'est facile de dire que là, c'est Saül, mais dire qu'on est comme ça, naturellement. C'est notre nature charnelle. Hein. Saül, c'est l'homme charnel. Donc, c'est nous, de base. C'est comme ça. Et en fait, eh bien, il reçoit des consignes claires de Dieu, mais... Eh bien, le vecteur principal de sa vie se réveille et le vecteur principal de la vie de Saül, c'est la peur. La peur de déplaire, la crainte de ne pas avoir les gens avec lui. Et c'est ce fameux épisode où Samuel lui dit « Tu attends 7 jours, je vais arriver au 7e jour pour faire le sacrifice. » Et Saül, au 7e jour, au lieu d'attendre Samuel jusqu'au bout, décide par lui-même. Et en plus, il fanfaronne parce qu'il explique à Samuel qu'il a fait un acte héroïque, qu'il a pris sur lui. Hein, dans le genre, on est capable d'aller loin devant Dieu quand on ment. C'est-à-dire, ouais, non, mais Seigneur, j'ai pris sur moi, j'ai quand même fait un acte héroïque. Non, il n'a absolument rien fait d'héroïque, il a désobéi. La désobéissance n'est pas héroïque. La désobéissance est simplement un péché. Et on s'aperçoit que ce qui conduit le cœur de Saül, la peur, va être son principal piège. Il est un homme qui se laisse conduire par la peur et au lieu de s'attendre à Dieu, au lieu d'attendre le temps de Dieu et au lieu d'attendre que ce temps de Dieu soit prêt et qu'il soit prêt, lui, pour le moment de Dieu, eh bien, il va mettre en œuvre à chaque fois des positions comme ça. Il y a d'autres exemples, on ne va pas les lire ce matin, ce serait trop long, mais dans tous ces chapitres, vous les retrouverez, où Saül prend des décisions par la crainte, par des vecteurs qui sont négatifs, des vecteurs de la crainte du regard des autres, la crainte de perdre l'autorité, la crainte de perdre des hommes, la crainte, voilà, toutes sortes de craintes possibles et imaginables. Et le dernier exemple, on le retrouve dans 1 Samuel 17, il me semble. C'est dans ce temps où il est avec Goliath. Saül est donc là, le chef, le roi, le chef de guerre, le chef des armées, et celui vers qui les regards sont tournés. Et encore une fois, la réalité de son cœur est révélée. Et dans ce passage-là, on s'aperçoit que quelqu'un qui est conduit par la crainte, non seulement lui est conduit par la crainte, mais il inspire toutes celles et ceux qui dépendent de lui d'être aussi conduits par la peur. Il faut être bien clair que quand on se retrouve dans cet épisode, il y a d'un côté l'armée d'Israël, de l'autre côté l'armée des Philistins. Il y a une stratégie des Philistins de dire on va envoyer un gaillard, un mec qui est quand même un peu balèze, tout ça, et puis on va utiliser l'outil de la peur pour les vaincre. Et il est clair que dans l'armée d'Israël, tout le monde est vaincu, mais le premier qui emporte la responsabilité, c'est bel et bien Saül, parce que je vous disais tout à l'heure dans ce reportage sur la guerre d'Algérie, les soldats regardaient leur N+1, comment ils allaient agir. Et si ce N+1 agissait héroïquement, le reste de la troupe allait agir héroïquement. Mais si ce N+1 était terrorisé par la peur, la troupe était morte. La peur est contagieuse, beaucoup plus que le coronavirus. La peur est contagieuse. Saül a peur. Il ne le dit pas comme ça, mais il a peur. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça influence ses généraux, et ses généraux influencent le peuple. Et le peuple est tenaillé par cette peur. Et alors que Goliath vient matin et soir simplement faire son sketch, personne n'est capable dans ce peuple d'entendre la parole de Dieu parce que la peur a pris le dessus. Saül est un homme qui fait des choix selon la peur, et quand arrive ce moment fatidique, eh bien le crash test de Dieu est quelque part fini pour lui. C'est fini, c'est trop tard. Et il a pris cette habitude-là, il a renié plusieurs fois le Seigneur et ce que Dieu lui avait demandé. C'est son crash test final. Et ce crash test final, on va retrouver un homme qui s'appelle David. David est un homme fidèle dans les choses simples. Les choses qui lui sont confiées. David est, contrairement à Saül, c'est pas quelqu'un qu'on remarque, c'est même quelqu'un qu'on méprise et qu'on néglige. Quand le prophète Samuel vient chez lui pour chercher, parce que Dieu lui a dit dans cette maison il y a le prochain roi, on le sait dans l'histoire de David, David est même laissé au champ, on oublie David. Samuel lui-même va se laisser berner, il pense que c'est les grands frères, que c'est Eliab qui va être choisi, mais Dieu lui dit non, c'est pas lui. Toi, tu regardes ce qui frappe les yeux. Moi, je regarde ce qu'il y a dans le cœur. Et quand il a fait le tour de toute la fratrie, eh bien, il s'aperçoit que David n'est pas là. Et Dieu lui dit non, celui que j'ai choisi n'est pas là. Il a été oublié, il a été négligé. David a été négligé, mais il n'est pas négligent. Vous voyez la différence? Saül est négligent, mais il n'a pas été négligé. David a été négligé, mais il n'est pas négligent. David est un homme de parole. Quand on va chercher David, on sait où le trouver, lui. Il ne se cache pas. Son père sait très bien dans quelle prairie il est, combien de troupeaux il garde. Il sait que David, on peut lui faire confiance. David va être choisi roi. Et ce qu'on va remarquer dans la vie de David, en tout cas dans ces mêmes chapitres, c'est que David est un homme qui assume les responsabilités qu'il reçoit et qui ne prend pas la grosse tête, alors que David est un roi, il est un roi. Oui, et alors? Si papa demain me redemande d'aller garder les biques dans les champs pendant que mes frères jouent au cow-boy, je retournerai garder les biques dans les champs. David n'a pas de problème d'identité. David est un homme selon le cœur de Dieu. David est un homme qui va continuer de cultiver une relation avec Dieu. C'est important de voir ça. Saül recevait une marque d'une identité, quelque chose d'extérieur, mais ne cultivait pas une relation avec Dieu. D'ailleurs, à bien des endroits, on voit Saül qui interpelle Samuel et qui lui dit « L'Éternel, ton Dieu, ce n'est pas son Dieu, il ne le connaît pas, il n'a aucune relation privilégiée avec Dieu. » Mais combien de fois David parle, lui, de l'Éternel, son Dieu, celui qui s'est révélé à lui, celui qui vient le délivrer du lion, du loup, de l'ours, et qui lui donne la force d'abattre. Vous avez déjà vu ce que c'est un lion? David arrache la brebis de la gueule du lion et il explose le lion. Ouais. Moi, j'avoue que j'aimerais bien voir le combat quand même. Ouais, je suis un garçon. J'assume 100%. J'aimerais voir le combat. Je dis, mais Dieu a dû lui donner quand même une sacrée force. Parce que quand vous allez au parc des félins, même le plus gros d'entre nous, le plus balèze d'entre nous, je le vois mal aller voir le lion. Peut-être le plus teigneux. Dans ce cas-là, j'ai des chances. David n'est pas teigneux. David est revêtu de l'Esprit de Dieu et il tient les choses que Dieu lui donne. Et quand son père lui demande d'être fidèle sur les brebis, il est fidèle sur les brebis. Il est choisi comme pour Saül, mais son identité est avant un choix de Dieu. Son identité est dans sa relation avec Dieu. Son identité est dans le fait que David est quelqu'un de droit, quelqu'un qui ne cherche pas à récupérer les choses pour lui-même. Et dans cette fameuse histoire de Goliath qui révèle la peur chez Saül, eh bien cette même histoire révèle le cœur de David. Cette même histoire révèle que David dit, mais comment se fait-il que nous laissions ce Philistin, cet incirconcis, injurier l'armée du Dieu vivant en restant ici? Il ne peut pas le comprendre. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas maîtrisé par la peur. Lui, il sait ce que Dieu a dit. Il sait ce que Dieu dit de lui-même, de Dieu, mais il sait aussi ce que Dieu dit des gens qu'il choisit, de son peuple. David, il sait qu'il fait partie du peuple de Dieu. Ça lui a été enseigné et il le croit. Il sait que ce que Dieu dit est la vérité. Et il ne remet absolument pas ça en cause. Alors David, il va s'appuyer sur la crainte qu'il a de qui? Eh bien de Dieu, simplement. Pas la peur des hommes, pas la peur d'un Goliath. Il dit, mais ça, à côté d'un lion, en fait, c'est pas terrible, un Goliath. Un Goliath à côté d'un lion, ça a juste une cuirasse, mais Goliath est beaucoup plus maîtrisable par la peur que le lion. Donc en fait, Goliath est beaucoup plus facilement atteint pour être vaincu que le lion. Et David, il sait très bien ça. Il s'appuie sur le fait de ce que Dieu pense de lui. Il s'appuie sur son expérience, sur ses expériences passées avec Dieu, sur ce qu'il a expérimenté de la fidélité de Dieu, sur comment Dieu l'a toujours secouru dans les jours difficiles, sur comment Dieu a été son réconfort dans les jours de solitude où il était laissé, tout ça. David, en fait, n'était pas laissé. Il savait que Dieu était en train de former son cœur. Et quand il se retrouve là devant Goliath et que même là, ses frères mettent des mensonges d'accusation, Eliab lui dit, mais tu es encore ce petit vaurien, tu viens et c'est ton orgueil qui te fait parler, David. Je ne sais pas si vous imaginez, David, il ose enfin un mec sur toute cette pétarde armée, enfin un gars qui ose se tenir là, et le premier à le descendre, c'est qui? C'est son grand frère. Celui qui aurait dû, au contraire, lui dire, ok, on est avec toi, je n'ai pas tout compris, mais je te suis. C'est le pire de tous. Il ne le suit pas. Est-ce que David se laisse démonter par ça? Nullement. David, il n'en tient même pas compte. Il continue. Il va jusqu'à Saül. Il explique que ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'il craint Dieu, c'est tout. Il ne craint rien d'autre. Et c'est tellement beau de voir comment un homme qui ne craint rien d'autre que Dieu devient un héros. Pas par lui-même. Vous savez, si David n'a pas été remarqué au début par Samuel, c'est bien parce que David n'était pas remarquable au niveau des yeux. Eliab l'était beaucoup plus. C'était un vrai gaillard. C'était un vrai mec. David, c'était un gamin. Mais David, il savait ce qu'il vivait avec Dieu. David, il savait que quand Dieu lui disait de garder les brebis, il n'y avait aucun problème. Parce que Dieu lui donnait l'autorité pour garder les brebis et que quoi que ce soit qui allait se mettre sur son chemin, il allait pouvoir l'exploser. Parce qu'il était gardien de quelque chose et que si Dieu te donne gardien de quelque chose, il te donne l'autorité et la capacité pour le faire sans aucun souci. Voilà qui est David. Alors David, il ne va pas se laisser embarquer par ses accusations. Il sait ce qu'il a à faire. Et même quand le roi Saül reprend un tout petit peu de témérité, enfin de témérité, non, c'est un peu gros ça comme mot, quand il veut accompagner David, il veut lui donner son armure. Je ne sais pas si vous imaginez la différence de taille entre Saül et David. L'armure de Saül empêchait David de marcher. Ça veut dire que c'était vraiment un gamin, d'accord? L'autre, c'était vraiment un homme fort, mais David qui tue le lion, sans la puissance de Dieu, il n'est même pas capable de marcher avec une armure. Il peut pas. C'est pas qu'il veut pas. Hein. Il peut pas. C'est comme ça. Ouais, il y en a d'autres qui popent pas. Mais David, il va descendre avec ce qu'il a comme expérience. Il sait que Dieu est avec lui. Et c'est comme ça qu'il va devenir ce héros. Tous les enfants dans toutes les écoles du dimanche, une des principales histoires qu'on connaît, c'est l'histoire de David et de Goliath. Pourquoi? Parce qu'elle parle d'un homme qui marche non pas selon la peur des hommes, mais qui marche juste sous la crainte de Dieu. Il sait ce que Dieu pense de lui. Ça lui suffit. La crainte de l'homme tend un piège, nous dit la parole de Dieu. Mais la crainte de Dieu nous amène dans des chemins de vie. Les traits de caractère dominants de David sont l'intégrité, la vérité et le courage. David est cet homme intègre, courageux, qui marche dans la vérité. À l'inverse de Saül, qui marche pour son compte, qui marche sous la bannière de la peur, qui attend que les autres fassent à sa place, qui se déguise et qui se cache. Saül, c'est un gars qui marche toujours dans la trouille. Il y a tellement d'épisodes dans ces passages de Samuel où il n'assume pas qui il est quand il va voir la voyante. Même là, il n'assume pas qui il est. Et quand Dieu se révèle, au lieu d'avoir encore là au moins un truc de repentance, mais non, il n'y a rien du tout. David est dirigé par l'intégrité, la vérité et le courage. Et vous savez quoi? L'intégrité, la vérité et le courage ne sont pas des émotions. La peur est une émotion. La peur est un sentiment. L'intégrité, la vérité et le courage sont des décisions. David n'a pas été, comment dire, entraîné parce que lui aurait été dans un flot d'émotions positives. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on se dit, ouais, mais parce que quand on a un beau flot d'émotions, quand il y a des gens qui nous encouragent, tout ça, on fonctionne mieux. Alors, oui et non. Alors, oui, sur le moment maintenant, mais si c'est tes émotions positives qui t'encouragent, elles ne seront pas toujours là. Elles ne seront pas toujours là. Et si tu n'as pas appris à prendre des décisions sur ce que Dieu dit de toi et sur des valeurs et des positions fermes, Eh bien, c'est dès qu'il y aura un sentiment, une émotion négative, tu ne tiendras pas. Dès que la crainte, la peur viendra te saisir, ton intégrité partira. Vous savez là où on vérifie l'intégrité d'un homme? C'est pas quand tout va bien. C'est quand ça commence à chauffer pour son portefeuille. C'est quand la secrétaire est plus que sympa par rapport à son épouse. C'est là qu'on vérifie l'intégrité d'un homme. C'est quand je suis capable de respecter la limitation de vitesse alors qu'on m'a garanti qu'il n'y avait aucun radar sur cette ligne-là. C'est là qu'on vérifie l'intégrité. L'intégrité se vérifie dans ces moments-là. David est un homme intègre. Alors vous allez me dire, ouais, mais il a péché. Que celui qui a jamais péché lui balance la première caillasse. Allez-y. Ouais, il a péché. Mais néanmoins, la parole de Dieu nous dit que c'est un homme selon son cœur. Et pourquoi? Parce que justement, c'est un homme intègre qui revient vers Dieu. Ouais, la différence. Bien sûr qu'il a péché. Et bien sûr qu'il a fait des choses qui étaient graves. Mais il est un homme selon le cœur de Dieu. Il revient vers Dieu. Quand Dieu lui parle avec la vérité, quand la lumière de Dieu vient sur David, il se repent, il confesse, il s'humilie et il l'écrit. Il l'écrit et toi et moi encore aujourd'hui dans le psaume 51, on reconnaît sa repentance qui n'était pas des larmes extérieures, mais qui était un cœur qui se laissait humilier par Dieu. Un cœur qui rencontrait la lumière de Dieu et David dit « Ok, je veux ta vérité sur ma vie, je veux rien d'autre. » David n'acceptait pas d'être tiraillé par la peur des hommes. Son secours est en Dieu. Son secours est en Dieu et en Dieu seul. J'aime cet homme, il m'inspire tellement. Alors, on vient de voir David et Saül. On va lire le psaume 101, psaume 101, verset 1 à 8. Je crois que c'est tout le psaume 101 d'ailleurs. Un psaume de David, forcément. Je n'allais pas choisir un autre psaume que celui de David. Il dit, voilà, je chanterai la bonté et la justice, c'est en toi, Éternel. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. David ne dit pas, je chanterai ta bonté et ta justice quand je la sentirai dans ma vie. C'est une position qu'il prend. On va comprendre là que les choix que David fait ne sont pas orientés sur ses ressentis, mais sont orientés en fonction de ce qu'il décide de vivre avec Dieu. Il reconnaît que Dieu est bonté et il va décider de s'appuyer sur la bonté de Dieu. Et tu as la possibilité aujourd'hui de décider de t'appuyer sur la bonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu comprends toutes les situations de ta vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des circonstances que tu traverses qui ne sont pas compliquées. Mais ça veut dire que tu as un choix à faire, comme David, de t'appuyer non pas sur l'émotivité de tes sentiments, mais sur ce que Dieu dit. Vous serez bien d'accord avec moi que David est probablement un des héros de la foi les plus émotionnels qui soient. David est à la fois ce guerrier impitoyable qui est capable d'arracher la brebis de la gueule du lion et de finir le lion à main nue, qui est capable d'aller non seulement envoyer un pavé dans la tête de Goliath, mais ensuite de lui trancher la tête. Et ça, on oublie, hein, mais David n'est pas un enfant de cœur. Et David, en même temps, est cet homme qui s'humilie devant Dieu. Et cet homme qui, quand l'arche rentre dans Jérusalem, va être capable de danser parce qu'il se moque de ce qu'on dit de lui. Et quand sa femme se moque de lui, elle est rejetée. Elle est rejetée, pourquoi ? Parce qu'elle s'est moquée d'un homme qui craint Dieu. Et David est un homme qui va vivre aussi dans les émotions. Attention, être un homme qui selon le cœur de Dieu, qui choisit de vivre dans ce qui est de Dieu, ça ne veut pas dire d'être quelqu'un qui est dur, qui est de la pierre, tout ça. Non, David est tout sauf quelqu'un de dur. C'est quelqu'un qui traduit tous les psaumes dans lesquels il parle. On voit son cœur avec tellement d'émotions, tellement de sentiments divers et variés. Mais ce n'est pas ses émotions qui vont diriger sa vie. Ses émotions vont le toucher, vont lui faire voir la fidélité de Dieu, vont lui permettre d'exprimer la réalité et la vérité de son cœur. Mais ce qui va diriger sa vie, c'est la décision qu'il prend de dire « Je me soumets à Dieu, je crains son nom et je reconnais que lui seul est mon secours. » Rien d'autre. Voilà ce qui détermine David. Verset 2. Je prendrai garde à la voie droite. C'est une décision. Ça, ce n'est pas une émotion. Je vais prendre garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi ? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. C'est-à-dire dans l'espace dans lequel j'ai une autorité, dans l'espace dans lequel j'ai moi aussi une autorité. Est-ce que je mets là des lignes de garantie d'intégrité ? Est-ce que je mets des choses qui me permettent d'être intègre ? Des choses où je dis ça rentrera pas. Ça ne passera pas. Ça, sur ce point-là, à partir du moment où j'en suis conscient, c'est un point non négociable. Ça, c'est pas possible chez moi. David l'a fait. Il n'a pas attendu d'être en joie ou pas en joie. Il n'a pas attendu d'avoir peur, enfin que les circonstances soient peureuses ou pas. Il a dit, moi, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Au milieu de ma maison, dans l'espace qui est le mien, je vais marcher dans l'intégrité de mon cœur. Bien sûr que la société autour, elle était déviante aussi. Mais David a dit, dans mon espace, dans l'espace que tu me confies, je marche d'une manière intègre. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Hé hé. Si tu es touché par ça, je regarde les jeunes, mais tous derrière, vous pouvez regarder aussi. Si tu es touché par ça et qu'à un moment donné, tu es convaincu que ce truc-là, c'est un problème. À un moment donné, il faut être radical. À un moment donné, il faut être radical. Là, ce n'est pas une émotion, c'est un choix, c'est une décision. Vaut mieux tourner avec un vieux 3310 de chez Nokia et rentrer dans le salut éternel. Tous ceux qui ont dit amen, donnez-moi votre iPhone. Que de rentrer avec un iPhone, avec un compte Insta, avec un Snap qui pète les plafonds. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Rien de mauvais. Ça, c'est facile, c'est pour les jeunes. Mais pour les moins jeunes, il y a voici, gala et tous les trucs que tu regardes chez le médecin et que tu ne devrais pas regarder chez le médecin, même si ce n'est pas toi qui l'as acheté, même si c'est posé là en évidence, même si tout le monde le regarde, tu ne devrais pas le regarder. C'est tous ces moments où tu sais que la pub qui va passer, elle n'est pas bonne. Eh bien, tu as un choix. Tu en as plusieurs, en fait. On a toujours des choix. Tu as le choix de dire, bon, je vais fermer les yeux. Mais en fait, ce que tu entends, ça te rappelle quand même ce que tu devais voir. Tu as le choix de dire, bon, je passe en avance rapide, parce que maintenant, avec la VOD, on peut faire ça. Mais en fait, le seul choix qui tient, sors ta télé. Sors ta télé. Tu trouves que je suis radical, j'assume complètement. Si c'est un problème, si tu ne sais pas faire le tri, si je n'avais pas une femme à la maison, je n'aurais pas de télé, parce que moi, je ne sais pas le gérer. D'accord ? Non, mais... Alors, je sais pas si c'est purement masculin, ça, je suis pas du tout sûr. Il y a des choses, je sais que c'est très masculin, ça, j'en ai aucune idée. Je connais des femmes qui ont un vrai problème avec la téloche aussi. Mais si t'as un souci avec ça, le mets pas devant tes yeux. Le mets pas devant tes yeux. Et si c'est un problème pour toi, la zapette, mais vire tout l'écran, ça sert à rien. Mais après, il n'y a pas que ça, hein. Les recherches sur Google, les émissions qui servent à rien et les infos sur le coronavirus sont exactement la même chose. Vraiment, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Il ne dit pas « je hais les pécheurs », il dit « je hais la conduite des pécheurs », c'est-à-dire « je vais faire en sorte que de ne pas me laisser influencer par leur conduite ». Elle ne s'attachera point à moi. Il a pris une décision. Ce n'est pas émotionnel, là. C'est une position, c'est un choix. Ce n'est pas quelque chose de sentimental. C'est une décision qu'il a prise. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Il dit, il y a des situations, il y a des relations, des fois, qu'on entretient dans la vie. On sait qu'elles ne sont pas vraiment bonnes pour nous, mais on continue de les entretenir. Des fois, franchement, je me demande pourquoi. Dieu nous l'a déjà dit. Elle me dit pas le contraire. Tu le sais. Si Dieu te l'a dit, tu le sais. Après, c'est toi qui négocies avec lui. Mais si Dieu t'a dit qu'une relation, que quelque chose n'était pas bon, tu le sais. C'est ta responsabilité si tu négocies avec Dieu. Lui, il négocie pas. Par contre, si tu lui dis que tu veux assurer, eh ben, après, il te laisse. Ok, vas-y, assure. Assure. Je ne veux pas connaître le méchant. Ça veut dire que je ne veux pas avoir de relation de temps, de cœur à cœur avec lui. Je ne veux pas le laisser venir toucher mon cœur. Celui qui calomnie, verset 5, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Je ne laisserai pas les ragots, la médisance passer dans ma maison. Combien d'entre nous, nous sommes facilement atteints par ces choses-là ? Et on a tous le même cœur. C'est une des pires séductions de l'être humain. C'est une des pires séductions de l'être humain. On est comme ça. Mais je l'anéantirai. Je l'anéantirai. Je ne laisserai pas ces choses grandir dans ma maison. D'accord ? Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Je ne le laisserai pas venir dans ma maison. Je ne le laisserai pas influencer ma vie. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Oui, parce que ce n'est pas que dans le négatif. C'est aussi dire, mais... Qui sont les gens avec qui je vais pouvoir construire quelque chose qui va m'encourager? Quelles sont les relations qui vont m'aider à tenir ferme dans des choix qui vont honorer Dieu? Quelles sont les relations qui m'encouragent à être un homme intègre? Quelles sont les relations qui m'encouragent à être un homme fidèle? J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, verset 6, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Je marcherai avec quelqu'un qui va être intègre. Je ne vais pas marcher avec quelqu'un qui a des capacités. Je préfère marcher avec quelqu'un d'intègre qu'avec quelqu'un qui a des capacités, mais qui n'a pas un cœur droit. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qui est important, ce n'est pas les capacités des gens, ce n'est pas leur aura, ce n'est pas leur capacité de raisonnement intellectuel et tout ça. Ce qui est important, c'est le cœur. Qui est-ce qui a un cœur pour servir Dieu? Et quand tu t'allies avec quelqu'un, et je ne parle pas là que du mariage, mais quand tu fais une alliance, quand tu manges avec quelqu'un, est-ce que c'est quelqu'un qui a le cœur droit Ou est-ce que c'est quelqu'un qui médit? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la tromperie? Te laisse pas avoir. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, et voilà David, un gars qui pleure, qui est émotionnel, tout ça, mais voilà ce qu'il dit. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays. Je ne laisserai pas le manque d'intégrité grandir dans mon espace, afin d'exterminer la ville de l'Éternel, tous ceux qui commettent l'iniquité. Je ne laisserai pas le mensonge, la peur, la tyrannie, la fraude, l'impudicité, le mensonge grandir au milieu de ma zone de responsabilité. Je ne le laisserai pas. On va finir là. Nous avons besoin d'apprendre à faire des choix. Des choix, non pas d'émotion, mais des choix de décision, des décisions qui sont prises sur ce que Dieu dit de nous. Nous sommes trop souvent, et je vous le dis vraiment, moi le premier, je suis trop souvent touché par mes émotions. Combien de fois j'arrive et je réagis avec joie ou avec colère parce que j'ai eu une émotion positive ou négative. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu me demande d'agir en fonction de ce qui l'honore, en fonction de ce qui favorise la gloire de son nom, en fonction de ce qui est intègre et droit. Est-ce que tu as envie d'écouter Dieu? Est-ce que tu as envie de laisser la lumière de Dieu venir en toi? Est-ce que tu as envie de laisser Dieu parler à ton cœur et du coup de laisser de donner l'orientation des choix de ta vie en fonction de ce qu'il te dit? Ou est-ce que tu veux continuer à être tiraillé dans tous les sens? Je remarque une chose, c'est que souvent nous disons être tiraillé, nous disons ne pas savoir quoi faire, quoi choisir, comment comprendre la volonté de Dieu. Mais en fait, la réalité, c'est que la compréhension de la volonté de Dieu commence dans les choses simples. David n'a pas eu une révélation de Goliath le jour où il est descendu voir Goliath. David a eu cette révélation parce que depuis sa plus tendre enfance, il a appris à écouter Dieu et à expérimenter sa fidélité. Il a appris à être intègre dans des choses qui étaient insignifiantes où personne ne le voyait. David a appris à rendre des comptes justes à son père, à ne pas se cacher derrière les circonstances. C'était quand même super facile de se cacher derrière la circonstance. Papa, il y a un lion qui est venu dévorer Piquette. C'est factuel. Il pouvait même récupérer éventuellement un petit morceau. Mais non. Il dit, s'il a dévoré Piquette, je vais lui ramener le lion en entier. Parce que c'est hors de question. Je dois rendre des comptes à mon père. Je vais lui rendre des comptes complètement. Je veux qu'il voie vraiment les choses qui se sont passées. David a été un homme intègre. Est-ce que tu choisis d'être un homme intègre, une femme intègre, un homme de vérité, une femme de vérité? Quelqu'un qui ne se laisse pas subjuguer par la peur, mais qui choisit dans chaque journée qui s'ouvre devant lui, de dire « Seigneur, aujourd'hui, je vais marcher dans l'intégrité. » Et le soir, de dire « Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir les espaces où je n'ai pas été intègre. » Il y a des espaces dans lesquels on tombe. Souvent, le juste tombe. Toujours, c'est plus que souvent. Toujours, l'Éternel le relève. Le juste, c'est qui? C'est celui qui marche dans l'intégrité. Souvent, le juste tombe. Dieu connaît notre humanité et nos difficultés. Mais si je suis juste, si je marche dans l'intégrité, je me laisse relever. David a été un homme selon le cœur de Dieu à cause de cela. Pas parce qu'il n'a jamais chuté, mais parce qu'il s'est toujours laissé relever. Se laisser relever, c'est quoi? C'est que dans les choix que je fais, quand ces choix ne sont pas bons, j'accepte que la lumière de Dieu vienne en moi. Je me repens. Je laisse mes péchés être mis devant. Et je dis à Dieu maintenant, le salut, il est juste en toi. Tu connais mon cœur. Je ne veux rien cacher. Je ne veux rien. Je ne veux pas faire semblant. Être intègre, ce n'est pas faire semblant. Être intègre, c'est considérer ce que Dieu dit comme étant la seule valeur. Pas la plus haute valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on parle de la plus haute valeur, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont hautes mais moins hautes. Non, non. Ce que Dieu dit est la seule valeur. La seule. la seule. Et nous avons besoin, et l'Église, dans ce sens, est quelque chose d'extraordinaire, puisque c'est le lieu dans lequel Dieu nous permet de nous encourager et de nous rappeler les uns aux autres. Parce que oui, nos émotions, bien souvent, nous tiraillent, mais qu'on se rappelle les uns aux autres, eh bien voilà ce que Dieu a dit. Voilà ce que Dieu a dit, voilà comment ce que tu dois rappeler dans ton cœur. Chacun doit faire des choix en fonction de sa vie. Je ne vais pas pouvoir faire des choix à votre place et vous ne pouvez pas faire des choix à ma place. Par contre, on peut être de celles et de ceux qui s'encouragent et qui disent « Voilà ce que le Seigneur m'a dit dans telle situation, voilà comment il m'a parlé, voilà ce qu'est l'intégrité pour moi. » Et puis dans ce que tu vis, ben moi ça va faire écho. Dans ce que je vis, ça va faire écho. Qu'on soit des contagieux de l'intégrité, non pas contagieux de la peur et de tout ce qu'elle environne, comme on a vu pour Saül, mais contagieux de l'intégrité et de la vérité. Autant la peur est contagieuse, autant l'intégrité et la vérité sont contagieuses. Autant la peur nous amène dans des choix de catastrophe et qui vont impacter tout le peuple, autant l'intégrité et la vérité nous amènent dans des choix de puissance, de vérité, de liberté et qui vont impacter aussi toutes celles et ceux qui choisissent de le regarder. Tout le monde a suivi derrière David. Et tout le monde chantait par respect pour Saül. On disait, il a tué ses 1000. Franchement, j'y crois pas une minute. Je pense que c'est juste un acte d'honneur pour le roi. Saül n'a rien fait. Trouvez-moi une histoire dans la parole de Dieu où Saül a fait quelque chose vraiment lui-même. Saül n'a rien fait. On a attribué à Saül des choses qu'il n'a pas fait. Par honneur, parce que quand même c'est le roi et c'est lui qui avait mis des positions, mais David avait vraiment fait quelque chose. David avait vraiment fait quelque chose. On va prier. Seigneur, on vient vers toi. Oh Jésus. Seigneur, on vient vers toi. Tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous conduit. Seigneur, nous voyons combien dans notre monde, Seigneur, l'ennemi nous cherche à nous captiver. Il cherche à nous captiver par les émotions. Il cherche à nous captiver par la séduction de l'envie, du plaisir. Et quand ça ne marche pas comme cela, il nous captive par la peur. Il nous captive par la crainte. Seigneur, nous venons vers toi et nous avons besoin de laisser ta lumière venir en nous. Seigneur, là où nous avons fait des choix qui ne t'ont pas honoré, des choix qui ont été orientés, comme on le disait au tout début, Seigneur, par des vecteurs que tu ne considères pas dans ta parole. Seigneur, eh bien, nous voulons te laisser ton esprit nous les révéler en profondeur. Seigneur, et te dire, viens. Viens et amène ta lumière. Seigneur, ce que nous voulons craindre, c'est simplement toi. C'est juste de t'honorer. Ce à quoi nous voulons soumettre notre vie, c'est uniquement à toi. Seigneur, et nous te prions vraiment dans ta grâce. Viens nous révéler ce qui nous sépare. Viens nous révéler ce qui parfois nous amène à faire des choix qui sont conduits, Seigneur, par d'autres vecteurs que par la crainte de ton nom. Seigneur, que ces choses soient dénoncées. Moi, je bénis ton nom pour le ministère du Saint-Esprit. Je bénis ton nom pour toutes les fois où tu me reprends, Seigneur, et où tu me montres, Seigneur, comment mon cœur peut agir de manière tordue, Seigneur, parce que se soumettant à des vecteurs que toi, tu ne considères pas. Mais Seigneur, nous venons vers toi et ensemble nous te disons, nous avons besoin, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin, Seigneur, d'orienter ma vie et les choix de ma vie, Seigneur, sur ce que tu dis et uniquement sur ce que tu dis. Seigneur, et que le monde puisse reconnaître que ma vie n'est pas maîtrisée par des émotions, par l'envie de réussir, par le progrès de l'homme, mais que toi tu sois vu. Seigneur, que les hommes et les femmes puissent dire en nous regardant, Seigneur, là il y a là un homme et une femme qui marchent différemment. Il n'est pas captivé par la crainte. Il n'est pas captivé par le fait de réussir pour lui-même. Il y a la présence de quelqu'un que je ne connais pas encore en lui, c'est la présence de Jésus. Seigneur, c'est ce que tu veux voir dans ton Église, que nous soyons des témoins, des hommes et des femmes qui rapportent le témoignage de ta présence en eux. Seigneur, et pour que ce témoignage soit vu et reconnu, eh bien nous avons besoin d'être des hommes et des femmes qui orientent les choix de nos vies sur ce que tu dis. Seigneur, conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous. Nous allons prendre le temps de scène maintenant. Nous allons prendre ce temps de scène et nous allons laisser Dieu nous continuer de toucher nos cœurs. Que ce temps soit un temps peut-être dans lequel tu considères justement les choix et la façon avec laquelle tu fais des choix. Vous savez, si je vous partage ce message, c'est justement parce que le Seigneur me parle en ce moment sur des vecteurs qui ne sont pas justes, qui ne sont pas cohérents et qui ont eu besoin d'être ramenés en lumière, qui ont eu besoin d'être reconnus pour que lui puisse agir. Et que ce temps de scène soit un temps dans la vérité, un temps où nous partageons le pain et le vin, le corps et le sang de Jésus, ce symbole, comme un temps où nous reconnaissons que ce sacrifice est puissant, il est véritable. Ce sacrifice nous affranchit de la tyrannie de la peur. Ce sacrifice nous affranchit de ce qui nous captivait jusque-là dans notre chair et nous donne de marcher par l'Esprit si nous laissons l'Esprit venir nous toucher et nous conduire. Amen.